France Culture, 7h-9h. Les matins du samedi, Quentin l'a fait.
Depuis le 7 octobre dernier, le conflit qui oppose Israël au Hamas fracture d'autres communautés, d'autres groupes lointains. Les plus grandes universités américaines sont de cela. Harvard, UPenn et Columbia sont désormais l'objet, par exemple, d'une enquête ouverte par le Congrès américain dans la foulée d'une audition parlementaire consacrée à l'antisémitisme sur leur campus. Alors pour comprendre ces fractures, leur impact dans le contexte nord-américain, je reçois ce matin Romain Huret. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Et peut-être faut-il commencer par rappeler la tradition forte sur les campus américains d'un engagement étudiant sur les questions internationales précises, historiques, d'ampleur mondiale. La guerre du Vietnam et l'apartheid en Afrique du Sud s'étaient déjà invités sur les campus américains. Comment est-ce que ces campus politisent ces questions ?
Il les politise parce que la jeunesse politise... Beaucoup de questions, hein. Mais ce qui est frappant dans la politisation en cours, c'est son caractère relativement neuf, hein, dans le contexte universitaire, puisque cela fait très longtemps que les campus n'avaient pas bougé, hein. Vous avez rappelé les antécédents vietnamiens ou le soutien aux forces engagées contre l'apartheid en Afrique du Sud, mais depuis quelques années, y compris pendant la guerre du Golfe, on avait vu des campus plutôt calmes et des étudiants très très calmes et ne bougeant guère pour soutenir telle ou telle cause.
Comment est-ce que vous expliquez cette résonance forte ? Pourquoi ce conflit mobilise-t-il plus que d'autres dans le fond ?
Parce qu'il y a une lecture parmi les étudiants et les étudiantes, hein, qui renvoie à des catégories d'analyse qui sont les leurs en termes de domination, de dominants et de dominés. Et là, parmi les étudiantes et les étudiants, il y a une volonté de choisir un camp, celui de la Palestine, chez beaucoup, avec l'impression que la Palestine est dans la position du peuple dominé et que Israël, hein, est un peuple dominant, hein, et donc le conflit, hein, est lu à travers des catégories qui sont importantes, hein, qui sont mobilisées sur les campus, et on a une lecture assez manichéenne, hein, du conflit en cours avec des oppositions très tendu, hein, à l'intérieur même du campus.
Alors on le disait, hein, jeudi dernier, le Congrès américain a ouvert une enquête sur ce qu'il a qualifié d'antisémitisme endémique sur les campus. Comment s'incarne ou s'incarnerait justement cet antisémitisme ?
Par un soutien très clair, hein, en faveur de la Palestine, hein, et une dénonciation tout aussi forte, hein, de l'action d'Israël, une difficulté parfois à condamner ouvertement les événements du 7 octobre, hein, et donc on a le sentiment qu'il y a beaucoup de dérapages sur les campus. L'usage du mot « intifada » a posé beaucoup de problèmes aux élus du Congrès, qui ont demandé au président de l'université d'expliquer l'usage de ce terme et le sens de ce terme, hein, qui est vu comme une forme d'antisémitisme, et donc ça crée beaucoup, beaucoup de tensions depuis un mois sur les campus.
Appeler au génocide des Juifs revient-il à violer le code de conduite ou les règles de votre université ? C'était la question posée au Congrès par une élue républicaine à ses trois directrices ou trois directrices d'université, hein, celle d'Harvard, de UPenn et de Columbia. Et les trois directrices ont eu énormément de mal à répondre par l'affirmative. Comment on explique aujourd'hui, comment est-ce que vous expliquez, Romain Huret, cette gêne des directrices, des directeurs des grands établissements universitaires américains ?
Alors il y a des images qui ont circulé, hein, qui ne ciblent qu'une partie des réponses, hein. Si on regarde l'ensemble des entretiens au Congrès, on comprend mieux ce qu'elle cherche à expliquer. Et bien évidemment, il y a une condamnation morale de la part de ces présidentes d'université, mais la question qui est posée porte plus précisément sur la dimension juridique. Et aux États-Unis, il existe quelque chose de fondamental, hein, la liberté d'expression, qui est garantie par la Constitution et qui rend très difficile, hein, de limiter cette liberté d'expression. Donc ce qu'elles expliquent, c'est qu'elles ne peuvent pas engager des poursuites, hein, au nom de cette liberté d'expression, à cause de cette manière de cette liberté d'expression. En revanche, elles peuvent le faire si des propos antisémites sont tenus contre telle ou telle personne. Elles le disent bien, si des conduites spécifique, hein, cible particulièrement des étudiantes, des étudiants ou des membres de l'administration ou des collègues, dans ce cas-là, bien évidemment, elles peuvent entamer des poursuites. Mais au nom de la liberté d'expression, elles sont bloquées, elles sont contraintes de laisser ces discours se tenir sur les campus d'Harvard, de Penn et de tous les campus des États-Unis.
Est-ce qu'on pourrait dire, dans le fond, que ces directrices et directeurs d'établissements sont pris entre deux feux, celui de la dimension morale évidente? Elles auraient la volonté de condamner cet antisémitisme latent, cet antisémitisme qui parfois se diffuse sur les campus, et d'un autre côté, la nécessité de protéger l'expression de la liberté d'expression.
Absolument, elles sont prises entre deux feux, hein, entre la nécessaire liberté d'expression aux États-Unis, garantie par la Constitution, et de l'autre côté, ce qui peut être assimilé à des dérapages extrêmement violents et des propos inadmissibles sur n'importe quel campus et dans n'importe quelle société. Et donc il y a là une mise à l'épreuve, hein, très forte, hein, de cette liberté d'expression. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du pays, hein, que cette liberté d'expression est mise à l'épreuve. Hein. Dans les années 30, il y avait des défilés nazis dans les rues de New York qui mettaient aussi à l'épreuve cette liberté d'expression. Là, on voit à nouveau que cela rejoue, hein, sur les campus états-uniens autour du conflit au Proche-Orient.
Alors après leur audition au Congrès, des politiques et des donateurs de ces grandes universités réclament la démission de ces directrice d'établissement. Quel peut être le poids de ces volontés exprimées? Est-ce que les donateurs ont dans ces universités un poids justement extraordinairement puissant?
Oui, ils l'ont, hein, dans les trois universités en question, mais dans l'ensemble du monde universitaire. Cela fait un mois que les donateurs et les donatrices ne cachent pas un certain malaise face à la prise de position des étudiants. Hein. Il y a là un conflit générationnel très intéressant, hein, puisqu'on a des étudiants qui s'opposent, hein, à un corps enseignant et à une direction souvent qui appelle au calme et à ne pas prendre parti. Et donc les donateurs ont fait savoir publiquement, hein, qu'ils étaient prêts à retirer les dons qu'ils font régulièrement aux universités si des propos en faveur de la Palestine continuent à être tenus de cette manière-là sur les campus.
Parce qu'il faut rappeler effectivement, Romain Huret, que ces donateurs sont souvent d'anciens étudiants, ce qui explique ce conflit générationnel entre les étudiants d'hier et ceux d'aujourd'hui. À Harvard d'ailleurs, en octobre, une trentaine de groupes d'étudiants avaient estimé qu'Israël était l'unique responsable des attaques terroristes du Hamas sur sa population. Est-ce qu'au fond, cela dessine, comme vous le laissez entendre, que l'ancienne génération est plutôt pro-israélienne, que celle d'aujourd'hui, les étudiants d'aujourd'hui, sont plutôt pro-palestiniens? Et comment est-ce qu'on explique cette évolution?
Alors, je pense qu'il faut faire attention à toute forme de généralisation. Hein. Mmh. Ce qui est certain, c'est que globalement, les États-Unis sont plutôt favorables à l'État d'Israël. Dans le journal, vous avez rappelé, hein, que les États-Unis se sont opposés au vote hier à l'ONU, hein, en faveur d'un cessez-le-feu. Donc il y a un pays qui depuis une quarantaine d'années, est très favorable à l'État d'Israël. D'un autre côté, on a, vous avez raison, hein, une population étudiante qui, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, hein, cette lecture en termes de domination du conflit, hein, penche plutôt du côté palestinien, parfois sans nuance, comme vous l'avez rappelé, hein, en estimant qu'il n'y a qu'un seul responsable dans les événements en cours. Et donc on a une très intéressante mise à l'épreuve, hein, de la géopolitique états-unienne autour de ce conflit générationnel.
Les trois universités qu'on évoque aujourd'hui, Harvard, UPenn et Columbia, sont des universités de la côte Est. Est-ce qu'on observe le même phénomène sur les campus aujourd'hui de la côte ouest américaine?
Oui, on l'observe dans tous les grands campus, hein, de l'Ivy League, hein, les plus grands campus aux États-Unis, sur les campus plus modestes, de l'intérieur du pays. Pour l'instant, les événements sont moins importants, hein, donc c'est plutôt les campus les plus riches, hein, aux États-Unis, les étudiants les plus brillants aux États-Unis qui sont ouvertement engagés, hein, dans une défense de la cause palestinienne. Et cela ajoute, je pense, à la discussion et au débat, hein, puisque ce qui a beaucoup frappé lors des entretiens au Congrès, hein, c'est précisément que ce sont les élites et les futures élites états-uniennes qui sont favorables à la cause palestinienne. Et là, il y a eu des attaques très très fortes contre ces présidentes d'université de la part d'élus républicains et d'une élue républicaine qui les a très violemment attaquées en les accusant de soutenir l'antisémitisme.
Je l'ai dit en vous présentant, Romain Huret, vous êtes directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Est-ce que, à votre échelle, celle de l'EHESS, vous observez de telles fractures qui se dessinent depuis le 7 octobre ?
Je pense que les fractures sont moindres en raison des différences de financement et de population étudiante. On n'a pas exactement les mêmes fractures à l'EHESS. Ce qui est certain, c'est que le conflit met à l'épreuve deux choses. Le fonctionnement de la démocratie universitaire, avec des prises de parole qu'il faut parfois encadrer, et des discussions qu'il faut aussi encadré à l'intérieur de l'établissement, et met à l'épreuve ce conflit une autre chose, c'est les sciences sociales, et un débat qui se pose dans mon établissement porte précisément sur la capacité des sciences sociales et des chercheuses et des chercheurs à répondre avec leurs armes critiques, leurs armes scientifiques au conflit en cours, et avec des sollicitations qui sont fortes de la part du monde extérieur et de la part des étudiantes et des étudiants. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé, à partir du mois de janvier, de mettre en place des débats dans mon établissement pour essayer de comprendre ce qui se déroule au Proche-Orient et de le faire avec les armes calmes, posées, réflexives des sciences sociales.
Merci beaucoup Romain Huret. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'EHESS. Merci d'être venu ce matin au micro des matins du samedi évoquer le conflit israélo-palestinien et surtout la façon dont il bouscule les universités américaines. Il est 7h16 sur France Culture.